En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Colonel Cyril Becker, cadre professeur à l'école de guerre, de formation troupes de montagne, donc un peu spécialisé dans la guerre et le combat en montagne. Alors j'en parlerai assez souvent, mais la guerre de montagne n'a jamais été une grande solution, au moins tactique, au moins stratégique et politique. Donc je resterai surtout dans le domaine très tactique. Et puis, comme je soutiens ma thèse d'histoire sur la création de l'alpisme militaire dans 3 semaines, vous me pardonnerez mon approche très, très historique, mais je pense qu'on peut comprendre la guerre en montagne avec cette approche historique et voir toute son évolution. Alors l'approche de la montagne est assez variée, elle occupe une grande place, une grande place notamment dans les principales religions, étant un lieu privilégié pour les manifestations de Dieu, elle est un point de contact entre la terre et le ciel. Par ailleurs, les persécutés ont toujours trouvé refuge dans les montagnes, aussi l'hérésie cathare et la secte des albigeois dans le monde médiéval chrétien, mais aussi les minorités maronites du Mont Liban au Moyen-Orient, et tout autant les musulmans druzes de la région du Chouf, les chiites géodécimains du Liban ou zédites au Yémen. La montagne est également un lieu de contestation du pouvoir central pour les mouvements rebelles, Abdelkrif dans le Rif au Maroc dans les années 20, les maquisans armés pendant la Seconde Guerre mondiale, les grottes de Tora Bora en Afghanistan aujourd'hui encore, les mouvements terroristes cachés en Kabylie ou au Yémen. Alors, la montagne est bien un abri éternel, et dès 1932, pour décrire les montagnes yéménites d'ailleurs, Joseph Kessel débute son roman Fortune carrée par ces mots: des montagnes aiguës gardent de toutes parts le plateau immense, inaltérable rempart aux formes de la nature et à la vie des hommes. Alors elle demeure le lieu d'élection par excellence de l'action des populations armées ou insurgées, et puis d'après Clausewitz, l'esprit national des troupes atteint sa plus forte expression dans la guerre en terrain montagneux, alors que le soldat est à peu près abandonné à lui-même, doit agir d'instinct et d'impulsion. Donc néanmoins, sans écarter pour autant les rébellions, car nous traiterons les divers aspects que sont la montagne promontoire, la montagne obstacle et puis la montagne refuge, notre communication sera davantage étendue sur la guerre dite de montagne ou guerre en montagne, hein, une guerre qui est somme toute plus traditionnelle. Donc c'est à l'évidence, d'un point de vue militaire plus classique, parce qu'elle est si spécifique et si difficile, comme l'écrivait le baron von Kuhn, que la guerre en montagne mérite d'être étudiée et trouve sa place dans ses journées d'études sur l'adaptation aux contraintes naturelles qui en régissent souvent les principes. Nous aborderons donc en premier lieu la description du milieu naturel montagneux, les contraintes qu'il impose aux armées, puis par le prisme de l'histoire, nous verrons les différentes approches militaires de la montagne et les différents principes qui ont été déclinés, avant de voir comment sont associés aujourd'hui guerre et montagne. Comme c'est l'avant-dernier sujet, je mettrai pas mal d'illustrations tout au long de cette présentation. Alors d'abord, la caractéristique géographique. La définition que donne Larousse en 2015 est assez brève. Élévation du sol naturel est très importante, région de forte altitude et en particulier lieu de séjour en altitude. En complément, dans un long article intitulé « Géopolitique en montagne » publié en 2002, Yves Lacoste aborde de multiples définitions de la montagne que nous résumons en quelques mots. Donc, le mot « montagne » est un terme géographique des plus anciens qui est apparu dès le XIe siècle en 1080 dans la chanson de Roland. Elle peut être définie comme un ensemble géographique qui combine divers sous-ensembles, grandes vallées, plaines intérieures, axes de circulation vers l'école, zones de peuplement, villes, et distingue éventuellement différents sous-ensembles montagneux, les chaînes d'avant-pays comme les préalpes, les zones axiales. Il faut classer les montagnes en différents ordres de grandeur. Les énormes chaînes, c'est-à-dire les Andes et l'Himalaya, qui sont en fait des ensembles de chaînes et s'allongent sur des milliers de kilomètres, on les voit bien sur cette map monde. Les grandes montagnes comme les Alpes ou le Caucase qui se mesurent en centaines de kilomètres, enfin les petites montagnes qui sont les plus nombreuses et qui se mesurent en dizaines de kilomètres comme les Vosges et le Jura. Mais pour caractériser une montagne, il faut aussi tenir compte de l'altitude de ses principaux sommets. L'altitude est une caractéristique nécessaire, mais elle n'est pas suffisante d'un point de vue tactique et stratégique. Les hauts plateaux du Tibet ou des Andes, par exemple, en raison de leur platitude, ne sont pas des montagnes. En termes d'action, une montagne est la combinaison hiérarchisée en taille comme en altitude de diverses formes de relief relevant de différents ordres de grandeur. Ce n'est donc pas sur l'ensemble d'une chaîne de montagnes que sont menés les mouvements et les combats, mais sur une partie de celle-ci et en fonction d'autres données que celles du relief. En effet, la connaissance de la montagne doit aussi tenir compte qu'une chaîne de montagnes est une intersection avec d'autres catégories d'ensembles spatiaux, donc ensembles climatiques, humains, ethniques, démographiques, économiques. Et sur les cartes, les intersections les plus nettes sont celles des montagnes avec les frontières d'État et sont des intersections qui déterminent en grande partie les enjeux politiques sur lesquels se déroulent les conflits. Alors, il existe cependant un invariant, c'est la contrainte imposée par le milieu montagneux sur la réflexion sur la conduite de la guerre en montagne. Alors, la montagne, mais aussi le froid arctique dans certains domaines, représentent des défis de taille pour tout soldat qui livre une guerre implicite contre la nature elle-même, en plus de la livrer contre l'ennemi. Donc, la manœuvre en montagne est mise en œuvre en tenant compte d'abord des conditions météorologiques ou climatiques, car elles influent sur l'engagement, puis essentiellement du terrain, qui est un obstacle objectif, car la configuration du relief limite les actions des unités. Alors, les conditions météorologiques en montagne peuvent changer très rapidement. Elles sont caractérisées par des températures faibles, diminuant avec l'altitude et la pression atmosphérique, qui peuvent engendrer des hypothermies, des engelures, des gelures. Un hiver nettement plus froid qu'en plaine, des phénomènes estivaux amplifiés, des précipitations souvent neigeuses augmentant avec l'altitude, une exposition directe au soleil ou en haute altitude et un manque d'oxygène, enfin des phénomènes propres, vent, orage et brouillard. Alors le climat ou le temps, on avait le débat tout à l'heure, mais le climat ou le temps engendre aussi certains risques objectifs, chute de pierres, glissement de terrain, avalanches, gel, crues, qui sont de réels dangers dont il faut se prémunir. Donc Bonaparte, pendant le franchissement du col du Grand Saint-Bernard, écrivait au consul « Nous luttons contre la glace, la neige, la tourmente et les avalanches ». Et on estime par ailleurs que la guerre qui opposa Autrichiens aux Italiens entre 1915 et 1917, appelée « guerre blanche », engendra la mort de plus de 70 000 hommes par le froid ou à cause d'avalanches naturelles ou provoquées par l'ennemi. Donc la météorologie, tout comme le relief, conditionne les réactions humaines, la manœuvre, les déplacements et l'utilisation des armes. Mais il y a aussi la vigueur et la tyrannie du terrain. Le relief détermine le réseau de communication, or sa vigueur représente une contrainte imposant des dénivelés importants à une altitude parfois élevée. Le terrain est systématiquement cloisonné et compartimenté, exigu, parfois difficilement pénétrable. Son étude est indispensable à la manœuvre pour l'emploi des armes, la planification des mouvements, la coordination et la liberté d'action des troupes. Or, la rareté des voies de communication est ainsi une contrainte de terrain particulière, car celles-ci sont vulnérables et pourtant indispensables au déplacement, tout comme à la logistique. À cela s'ajoute le problème de la cartographie, qui tend à diminuer, notamment avec l'utilisation du GPS. Donc le temps, le climat, le relief, tout s'accumuler ont donc des conséquences à la fois sur l'homme, des incidences physiques, fatigue, sensibilité, physiologique, acclimatation, voire psychologique, comportement, et sur les matériels et les armes, donc pour leurs utilisations, leurs performances et leur conservation. Mais à travers l'histoire, nous notons combien la perception militaire de la montagne a évolué, avec différentes représentations que sont la montagne terrifiante et imprenable, la montagne conquise et la montagne en guerre. Alors, la montagne, dans l'Antiquité, les phalanges d'hoplites ou la phalange macédonienne combattent sur la place la plus nette ou la plus unie, disait Hérodote, qui est toujours un terrain plat. La montagne est crainte et respectée, les légions romaines ne l'utiliseront pas non plus comme lieu de bataille. Elles sont alors soit le lieu refuge des dieux, soit l'abri des peuples faiblement armés, qui ne constituent pas une menace, mais connaissent parfaitement leur terrain. Les Crétois, les peuples des Alpes, les Cimbres ou des Pyrénées, les Espagnols, montant des embuscades et utilisant des armes de jet, agissent par des coups de main où s'exerce la ruse considérée comme lâche ou déloyale. Il y eut néanmoins des batailles célèbres où la montagne jouait un rôle prépondérant. Les troupes perses contournèrent l'étroit défilé des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ pour prendre Léonidas de travers. Une telle manœuvre est alors contraire aux usages qui imposent un affrontement rangé et frontal. En 327 avant Jésus-Christ, Alexandre, assiégeant le roc de Sogdiane, ne voit de tous côtés de ce nid d'aigle qu'une hauteur couverte de neige, inabordable. Il est provoqué par les assiégés qui l'incitent à chercher des soldats qui auraient des ailes pour vaincre la montagne. Il promet alors une forte récompense aux soldats qui s'empareraient du rocher, et ce sont 300 Macédoniens qui s'élancent de nuit sur le côté le plus escarpé et le moins surveillé, chaussés de crampons de fer qu'ils doivent ficher dans la glace ou dans la roche, et auxquels ils attachent des cordes solides. Durant l'assaut, 30 d'entre eux chutèrent dans les précipices et dans les neiges, mais ils conquirent néanmoins le sommet. Enfin, en Europe, la chaîne des Alpes est la limite de l'Empire romain, véritable obstacle qu'Hannibal franchira en 218 avant Jésus-Christ, édifiant sa légende, et César pénétrera en territoire alpin au 1er siècle avant Jésus-Christ par le col du Grand Saint-Bernard. Plus tard, au Moyen-Âge, la codification des batailles et le mythe des montagnes infranchissables, voire maléfiques, repoussent aussi les combats dans les plaines. Donc, nonobstant quelques escarmouches ou certains franchissements de cols célèbres, comme celui de Roncevaux ou bien le col de Brenner entre Innsbruck et Milan, emprunté par les Gaulois de Brennus, puis les Lombards et armées autrichiennes, les montagnes ne sont toujours pas des terrains de grande solution, car les guerres se déroulent toujours au débouché des vallées. Alors certes, François Ier vint à Marignan en passant par les cols de Vars et de l'Arche, mais il n'y livra pas bataille. D'autres exemples historiques retracent la montagne utilisée à des fins militaires. Donc, quand les guerres éclatent, les troupes de circonstance sont envoyées au feu immédiatement et n'ont donc pas le temps de se préparer. Dès le XVe siècle, Charles VII dresse les premières organisations spécifiques des troupes de montagne et, pour franchir les Alpes, il crée 12 bandes d'infanterie légère qui se font remarquer par leur connaissance du milieu et leur habileté à manœuvrer en terrain difficile. Les troupes alpines structurées sont véritablement apparues en France avec Vauban, initiateur de la défense stratégique des Alpes. Donc, je vous laisse lire ce qu'il écrit pour en fermer quelques passages. Mais il n'obtint pas les troupes désirées et il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir s'élaborer la tactique en montagne. Et encore, il s'agit bien souvent d'assiéger les places des vallées ou des retranchements élevés. Dès 1706, le maréchal de Catinat recrute dans le Haut-Dauphiné 54 compagnies de fusiliers de montagne pour défendre la frontière menacée. Et le maréchal de Berwick les emploie admirablement dans les différentes campagnes qu'il gagne avec succès dès 1709 lors de la guerre de succession d'Espagne. Ces troupes sont alors organisées comme de véritables corps spéciaux extrêmement mobiles face à des miliciens levés localement. En 1747 se déroule l'affaire de l'Assiette, la première grande bataille en montagne, où à plus de 2500 mètres d'altitude, en 3 heures de combat, à proximité de Briançon, l'armée française commandée par le chevalier de Belle-Île subit une magistrale défaite face aux Autrichiens et aux Piémontais organisés en défensive. Après cette lourde défaite où plus de 5000 Français périssent, sont initiées les premières études sur la guerre de montagne et sur l'utilité de disposer d'artillerie et de renseignements sur les positions ennemies. À la Révolution, les généraux se révèlent dans la guerre de montagne. Sous l'impulsion de Kellermann, les troupes de montagne réapparaissent en 1793 avec le corps de chasseurs des Alpes. Et puis Bonaparte, influencé par Bourset, franchit le col du Grand Saint-Bernard et démontre son talent tactique durant la campagne d'Italie de 1797. Alors si, selon Clausewitz, l'histoire des guerres montre combien les montagnes favorisent peu l'action décisive de la défense, on y voit sans cesse les grands généraux quitter les hauteurs pour se porter dans la plaine dès qu'il s'agit d'une bataille générale. Mais progressivement, il n'est guère de massifs montagneux en Europe qui ne voient des armées aux prises. Partout la lutte y est âpre comme la nature. Alors le capitaine Gambiez, dans un ouvrage intitulé « L'alpinisme militaire », écrit en 1884 « Au souvenir de ces luttes glorieuses contre la nature, n'est-il pas vrai qu'on se sent pénétré d'admiration pour la grandeur de l'âme, de l'homme et la puissance de sa volonté ? En effet, fort de ces expériences passées, les troupes s'engagent vers les cols et les sommets, et la montagne devient une montagne conquise. Donc, la guerre en montagne moderne est assez finalement récente, car elle n'est apparue qu'avec la conquête de ces sommets, et surtout avec le développement technique des armes et des munitions qui ont permis de s'affranchir en grande partie des contraintes imposées par un milieu longtemps craint et redouté. La montagne devient un vrai champ de bataille. Dirigés par le baron von Kuhn, les chasseurs tyroliens de l'Empire austro-hongrois vont prendre conscience aux Italiens que les Alpes ne constituent plus une frontière naturelle, ni une fortification suffisante, et ceci crée en 1872 le corps des Alpini. Les Français suivent le mouvement et sous l'impulsion du chef de bataillon Harvert, ils créent en 1888 les chasseurs alpins et instaurent les premières troupes de montagne. À partir du XIXe siècle, l'évolution de la technique sur les aménagements réalisés en Europe modifie les traversées de chaînes de montagnes. L'extension du réseau de chemin de fer et l'amélioration des infrastructures routières permettent le transport plus rapide des bataillons vers les vallées, facilitant à la fois les conditions d'entraînement et la mise en place vers les frontières. Les guerres du XXe siècle voient les premiers engagements massifs en montagne. La Première Guerre mondiale éclate à cause d'un conflit dans les Balkans et commence en France dans le massif vosgien dès 1914, où la montagne s'avère un véritable obstacle infranchissable. Le front, figé à l'ouest, est percé par les empires centraux dans les Alpes dinariques, puis par les alliés dans les Balkans. En 1915, dans le massif des Dolomites, le pic de l'Ortler est un théâtre de combats d'artillerie lourde à 3905 mètres. 30 guides de montagne et 30 prisonniers de guerre russes traînent des canons démontés jusqu'au sommet dans un effort surhumain. Ce sera la position d'artillerie la plus haute du conflit. En 1916, les Carpates sont le théâtre d'offensive entre les troupes austro-allemandes et l'armée roumaine, et Russes et Turcs s'affrontent en 1916-1917 dans les campagnes du Caucase. En octobre 1917, les grandes puissances centrales mettent l'initiative sur le front italien avec une guerre de mouvement. La défaite de Caporetto voit le front italien craquer et la déroute des forces italiennes. Organisée par Foch, l'envoi d'urgence de renforts franco-britanniques totalisant 11 divisions, dont 2 de chasseurs alpins, sauve l'Italie. Enfin, en 1918, la conquête de Dobropolié durant la guerre d'Orient doit être considérée comme un vrai combat en montagne avec l'emploi de cordes sur des pentes escarpées à plus de 40 degrés. En 39-40, après l'invasion soviétique en Finlande, l'unique victoire alliée est obtenue dans les montagnes norvégiennes à Narvik et sur la frontière des Alpes par les Français face aux Italiens. La montagne devient alors un jeu d'affrontement terrible. Entre 1941 et 1944, les troupes allemandes se battent en Crimée, dans le Caucase, en Russie et dans le nord de la Grèce. En 1943-1944 s'ouvrent aussi les maquis des Alpes et de Yougoslavie. En mai 1944, Après 3 mois d'échecs d'attaques frontales anglo-américaines sur le Monte Cassino, le général Juin s'en empare en débordant au sud lors de la bataille du Garigliano. Après ces guerres, les montagnes demeurent un champ de bataille toujours plus conséquent et un théâtre d'opérations et de guerres politiques permanents. Au début de la guerre froide, le principal conflit entre les blocs se déroule dans les montagnes coréennes, hein, où la bataille de Crèvecœur voit l'engagement du bataillon français de Corée en 1951. Et celle-ci se conclut dans un autre pays montagneux, en Afghanistan, où l'ours soviétique s'enlise irrémédiablement. Les pays de montagne sont également le théâtre des conflits de décolonisation les plus durables, car ils offrent aux mouvements de guérilla un refuge inexpugnable, comme en Algérie ou au Vietnam. En Europe et en Russie, la guerre en montagne est toujours considérée comme marginale, car la bataille décisive doit avoir lieu dans les plaines, même si en 1825, 1920, puis en 1994, l'armée russe occupe la plaine tchétchène et repousse les rebelles vers les montagnes pour les isoler et les écraser. En Asie, la région du glacier du Tsachien et les hauteurs de Kargil, que revendiquent l'Inde et le Pakistan en 1984 et 1999, où plusieurs centaines de milliers de soldats sont mobilisés, sont le théâtre d'une guerre froide en haute altitude, à plus de 5000 mètres, et souvent dans des températures inférieures à 0 degré et pouvant descendre jusqu'à moins 48 degrés. Le changement de paradigme stratégique des années 90, les guerres des Balkans, de Tchétchénie et l'intervention alliée en Afghanistan redonnent leur importance aux opérations en montagne. Au bilan, tout au long de l'histoire, la guerre en montagne vise divers objectifs liés à l'action principale, contrôle d'une zone, d'un massif ou d'une vallée, ou entrant secondairement dans le cadre d'une manœuvre globale, diversion, couverture. Or, la guerre de tout temps répond à l'application de principes propres, qu'ils soient anciens ou modernes. Depuis que le lieutenant-général de Bourcey a rédigé en 1775 les premiers principes de la guerre de montagne, ceci ne varie pas, même si les grands théoriciens de la guerre de montagne, Clausewitz, Jomini ou le baron von Kutz, s'opposent sur certains systèmes. Alors Bourcey a créé à Grenoble la première véritable école d'application des officiers du service d'état-major. Et s'appuyant sur son expérience de la guerre de montagne, il suggère en défensive un schéma encore d'actualité. Une ligne avant composée de postes avancés tenus par des troupes légères qui détachent des patrouilles et arment des détachements d'observation et de surveillance. Une ligne intermédiaire qui se tient prête à empêcher le contournement et à arrêter les pénétrations en profondeur. Ce sont les tâches classiques de la réserve moderne. Enfin, une zone de déploiement de l'armée. Il privilégie aussi une défensive active, à savoir une réunion en force sur quelques positions pour tenir les points clés avant l'ennemi plutôt qu'une simple défense qui divise ses troupes face à une armée supérieure. Clausewitz, pour sa part, consacre de longs chapitres à la guerre de montagne. Il part du principe qu'une contrée montagneuse exige le plus grand morcellement des troupes, contraint à scinder l'action et affaiblit la puissance du choc. Ainsi, un système de montagne est propre à constituer une ligne de défense qui ferme passivement les routes et les passes, par de petits forts ou de petits postes détachés qui, dans leur isolement, se prêtent le mieux à une résistance relative. L'armée défend le terrain que l'occupe et réciproquement, le terrain défend l'armée qui l'abrite. Ainsi, la défense des Alpes pour Clausewitz exige-t-elle un fractionnement des troupes considérable et se rapproche de ce qu'il nomme le système défensif de cordon. L'organisation défensive clausewitzienne est simple. Les postes principaux sont constitués d'un premier échelon d'infanterie. Un second échelon est constitué avec quelques escadrons de cavalerie et d'infanterie. Le gros de l'armée est placé sur un point central et garde, en outre et en toutes circonstances, 2 ou 3 bataillons en seconde ligne. Ce n'est que dans les cas les plus rares qu'on a conservé sur ces derrières une réserve stratégique destinée à renforcer les points attaqués. Jomini s'oppose à Clausewitz qui prétend que le mouvement est la partie difficile de la guerre de montagne et prône que l'initiative est favorable. Si le front d'opération est multiple ou s'il s'étend sur plusieurs vallées, Jomini condamne le système de cordon de défense. Je cite « Le fatal cordon viendrait à être percé, car il ne peut couvrir toute la périphérie d'un pareil cercle et l'armée ne peut alors livrer une bataille décisive. » Jomini donne une leçon, en montagne comme en plaine, sur les avantages de la concentration des forces et sur une position centrale. Pour la défensive, un seul front d'opération déterminé est formé de 4 ou 5 vallées convergeant vers le nœud central de ces vallées. Il recommande la construction d'un bon fort au point du défilé le plus resserré, le plus difficile à tourner, et de placer sous la protection de ces forts quelques brigades d'infanterie à disputer le passage. Une réserve, enfin, de la moitié de l'armée, postée en ce nœud central de la rencontre des vallées, soutiendrait les avant-gardes les plus menacées. Il voit lui aussi dans la défensive active le principal facteur de réussite, car de bonnes lignes de défense établies au centre des confluents et couvertes par des réserves stratégiques sont, avec une grande mobilité et quelques retours offensifs, les meilleurs moyens pour défendre le pays. Von Kuhn, c'est le dernier chronologiquement des grands théoriciens, mais pas le moins fertile en idées. Il condamne à la fois le système en cordon, qui oblige une occupation de chaque passage et de chaque entrée au détriment de la masse des réserves, et prône la tendance inverse, à savoir concentrer les troupes sur des positions stratégiques, derrière les postes avancés protégés par de faibles réserves tactiques. Son modèle défensif est de fusionner deux systèmes, division des forces et répartition sur trois lignes. Une ligne d'avant-poste sur les itinéraires importants, en ayant pris soin d'identifier les axes de pénétration afin d'être en mesure de définir les caractéristiques de la manœuvre défensive. Une ligne de réserve tactique répartie sur les points importants de la vallée ou dans le voisinage des principaux cols de montagne avec des fonctions statiques. Une ligne de réserve stratégique où se rassemblent les lignes d'opérations ennemies. Donc à l'instar de Bourset et Jomini, von Kuhn postule lui aussi que l'activisme de la défense, en particulier en infériorité sensible, est un facteur de réussite. Alors, bon nombre de ces théories seront reprises au XIXe siècle. On pense notamment au système de cordons fortifiés de Serret de Rivière ou en 1859 aux conceptions des généraux Mezza Capo qui prônent les avantages d'une défense montagneuse d'avant-garde et fortifiée assortie de troupes armées puissantes pour contrarier les projets de l'ennemi. Au XXe siècle, avec la maîtrise des équipements, les évolutions techniques et technologiques, les troupes s'engagent davantage dans les massifs en toute saison. Les montagnes deviennent un élément stratégique pris en compte dans les différents engagements, et les pays créent ainsi des forces spécialisées qui répondent à des principes qui, peu à peu, s'agrègent pour donner un réel corpus doctrinal. Si on considère les principes de la guerre définis par Foch au regard de leur utilisation en montagne, on peut penser que toute liberté d'action est restreinte par le cloisonnement, qui empêche tout renforcement et canalise la manœuvre, que la concentration des efforts est difficile à obtenir à la fois pour regrouper les moyens et pour bénéficier d'appuis directs comme indirects, enfin que l'économie des forces n'est pas possible. D'une part, car pour tenir le terrain, il faut fractionner les unités. D'autre part, car le milieu climatique extrême use les hommes. Mais la doctrine d'emploi des forces terrestres en zone montagneuse décrit en 2010 des principes spécifiques à mettre en corrélation avec le livre des colonels Decourage, Givre et Le Nain, qui établit 6 principes. La préparation aux conditions de l'engagement, c'est-à-dire aguerrir les corps, former les esprits et vaincre le milieu. Ubiquité, c'est-à-dire sidérer l'ennemi par une menace tous azimuts. Opportunisme, provoquer des opportunités dans un milieu révélateur. Domination du champ de bataille, qui tient les hauts exploite par les bas, mais qui ne tient pas les bas perd les hauts. Enfin, complémentarité des feux, dresser contre l'ennemi une matrice de feu et siège de l'ennemi, savoir mener la guerre contre les voies de communication de l'ennemi. Ces principes ne sont pas les clés de la victoire, mais offrent au chef militaire et à sa troupe un guide pour la réflexion et pour l'action. Après un bref aperçu de ces principes historiques actuels, voyons maintenant comment se pratique concrètement la guerre en montagne pour une armée moderne à la pointe des nations occidentales. Qu'à l'instar des premiers groupes alpins conçus dans les années 1880, le combat en montagne impose des actions par des petites unités autonomes, interarmes, ayant un commandement intégré, placées bien souvent à l'avant du dispositif pour avoir la meilleure vision tactique d'ensemble. Les opérations sont alors décentralisées au plus bas échelon, car face au terrain, les moyens employés interdisent une trop grande concentration des efforts. Les composantes majeures interarmes sont l'infanterie, tout d'abord, qui compose le noyau dur des unités engagées au combat en montagne, car elle est la seule fonction opérationnelle apte à durer, à manœuvrer à pied, enfin à occuper le terrain pour contrôler le milieu et combattre dans les zones compartimentées. Le génie participe à la manœuvre par le contrôle et l'occupation des points hauts, aménagement du terrain, aide au déploiement, sauvegarde et protection, et par l'aide à la mobilité dans les vallées, lutte contre les engins explosifs, improvisés. Ces délais d'intervention limitent parfois son emploi. En avril 1945, les sapeurs du 1er bataillon de Légion étrangère taillent dans la neige durant 48 heures un chemin vers le col de la Lombarde à 2400 mètres pour que les engins du génie puissent terminer et faire passer l'armée des Alpes en Italie. Son chef, le général Doyen, qualifiera cette tâche de gigantesque tour de force. L'artillerie, même si elle est limitée par la rasance des trajectoires et son impossibilité de quitter les axes, elle est l'auxiliaire indispensable de l'infanterie à qui elle peut apporter un concours important, surtout dans les régions d'altitude moyenne ou plus élevée. En 1944, des pièces de 75 mm de montagne du 93e régiment d'artillerie de montagne sont montées au col du Midi à 3500 mètres d'altitude et détruisent le pylône du téléphérique du Mont Fréty, empêchant tout ravitaillement aux Allemands. Et plus récemment, les Afghans l'utilisent beaucoup en raison d'un manque d'appui aérien. Mais l'artillerie dirige aussi le renseignement, la manœuvre des feux dans la profondeur et dans les espaces, l'appui feu sol-sol, voire air-sol. Elle dispose de moyens d'observation et de capacités de feu tout particulièrement puissants qui s'affranchissent de la contrainte du relief en cloisonnant, harcelant et désorganisant l'ennemi. L'appui air-sol permet de traiter les objectifs qui utilisent les masques du terrain, les contre-pentes ou les autres repères, et l'efficacité de ce type d'appui dépend cependant des conditions météorologiques. L'arme blindée. L'arme blindée convient peu au terrain montagneux, mon cher Thierry, désolé, qui, en général, restreint son action et ses capacités de mouvement en dehors de quelques replats, plateaux et voies de communication. Néanmoins, elle s'adapte au relief dans les espaces favorables à un emploi décentralisé jusqu'au plus bas échelon et apporte alors de la réactivité et de la puissance de feu. du renseignement par ses moyens d'observation et d'investigation mis au profit des troupes débarquées. Elle dispose de capacités de réaction par les bas très efficaces en fonction du nombre et de la praticabilité des axes et itinéraires et peut établir un dispositif en profondeur, voire largement étalé de part et d'autre des vallées. Ce fut le cas de la campagne de la 12e armée allemande dans les Balkans en mai 1941, qui engagea 1200 chars, et de l'invasion syrienne en 1976, où les divisions blindées avec 200 chars attaquèrent en force par les montagnes libanaises. Les transmissions et systèmes de communication sont performants et déployés en quadrillant le terrain. Les points hauts sont systématiquement recherchés afin d'assurer la permanence des communications et des liaisons. La logistique en zone montagneuse revêt une importance considérable dans les domaines du ravitaillement et de la santé, et les unités de montagne n'ont jamais pu disposer d'une très grande autonomie logistique, sont toujours tributaires des recomplètements et du soutien médical. Le général Juin, en 1944, utilisa 7500 mulets pour ravitailler toute son armée. Et la météorologie peut jouer un rôle important dans la manœuvre logistique, surtout si celle-ci est basée sur un soutien aéromobile. L'aéromobilité, enfin, est la plus récente des composantes du commandement en montagne, auxquelles elle procure des capacités complémentaires, car elle permet de s'affranchir des voies de communication et apporte vitesse et souplesse. Son emploi est flexible et discret et est totalement intégré à la manœuvre interarme de contact, renseignement, dissuasion et appui-feu ou d'appui. La contrainte de vol en fonction des conditions météo tend à diminuer, mais elle est bien réelle par très forte chaleur, vent fort ou chute de neige. La préparation à la guerre en montagne se fait d'abord par l'aguerrissement et la formation de troupes spécialisées qui aujourd'hui est basée sur un entraînement tactique et technique qui porte sur un aguerrissement individuel et collectif réalisé dans des conditions réalistes, altitude, relief accidenté, température basse. La condition physique, mentale et morale du soldat, la cohésion de l'unité, la maîtrise du milieu et des moyens doit permettre de résister aux agressions de l'ennemi qui s'amplifient lorsqu'elles sont ajoutées à celles du climat et du terrain. La guerre en montagne est aussi par essence une guerre décentralisée dans laquelle le chef est investi de responsabilités importantes. Donc la formation de cadres et de chefs compétents est primordiale. Enfin, un soin tout particulier doit être apporté à la mise en œuvre des matériels et à l'emploi des équipements qui doivent être adaptés en adéquation avec les conditions météo et avec le terrain, qui tous deux affaiblissent les performances et modifient les caractéristiques habituelles. Alors pour conclure, en montagne, bien plus que dans la plaine ou en localité, le succès appartient donc à celui des deux adversaires qui, le plus solide et le plus apte, le plus habitué à y combattre, saura devancer l'autre aux endroits stratégiques et se rendre maître du terrain en vainquant les conditions climatiques. Alors que la défensive l'emportait sur l'offensive, ce qui faisait des zones montagneuses, des zones refuges propices au combat de guérilla, la mobilité et la complémentarité des moyens engagés devraient permettre dorénavant de prendre l'ascendant sur tout type d'adversaire. Ainsi, face à la menace actuelle, les opérations montagneuses visent alors un effet tactique sur le terrain ou sur l'ennemi, sans jamais oublier de prendre en compte la population, acteur politique majeur. Alors, l'aspect interarme est essentiel, tout autant que la préparation de la troupe à durer, à être en excellente condition physique, à restituer les actes élémentaires individuels et collectifs, à quelque niveau que ce soit. Aussi, loin de la guerre classique, les opérations en montagne répondent à ce que le mentionne le lieutenant-colonel Abadi, stagiaire à l'école supérieure de guerre en 1924. La guerre de montagne est donc bien une spécialité qui exige des troupes ayant une organisation, un outillage, une hygiène et un entraînement particulier. Elle utilise des procédés spéciaux, tout en ce qui concerne les marches, le stationnement et le combat, que pour les ravitaillements et les évacuations, car les propriétés des différentes armes et leurs possibilités de transport y subissent de très sensibles modifications. Invoquons enfin pour conclure Victor Hugo qui, dans 93, écrivait, je cite, « La montagne est une citadelle, la forêt est une embuscade. L'une inspire l'audace, l'autre le piège. L'Antiquité plaçait les dieux sur les fêtes et les satyres sur les alliés. Nous avons pu constater que la montagne est donc bien souvent une citadelle et l'ayant beaucoup pratiquée, je sais qu'elle se dévoile aux audacieux. Je laisserai donc au professeur Jean-Paul Hamas le soin de nous dire si la montagne est bien une embuscade qui inspire le piège. »